Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Ils volent au-dessus de nos têtes environ 10 000 espèces qui sillonnent les terres, les mers et les airs, les oiseaux qui fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Ils ont nourri mythes, récits, contes, légendes, croyances et mythologies. Des animaux qui descendent des dinosaures et qui enchantent la vie sur Terre. Que serait un printemps, un monde sans oiseaux, hormis pour les phobiques, des pigeons ou des corbeaux? Ce serait un monde triste et difficile à vivre. Ce matin, je vous propose un coup de projecteur sur l'intelligence des oiseaux, ou plutôt les intelligences des grilles du Gabon, des corbeaux calédoniens ou encore des hirondelles. Vous verrez que nous avons vraiment tort d'utiliser des expressions comme être une tête de linotte, avoir une cervelle de moineau, être bête comme une oie, pour signifier la stupidité d'une personne. Vous verrez que certains corbeaux sont capables de visualiser comment résoudre un problème avant de fabriquer des outils sophistiqués, ou bien que certains perroquets, comme le gris du Gabon, peuvent décrire des objets par leur couleur, leur taille ou leur forme. Nos experts répondent à toutes vos questions sur les différentes formes d'intelligence des oiseaux, intelligence cognitive, émotionnelle, sociale, au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 par message et par note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Qui n'a vraiment pas une cervelle de moineau. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Eh bien, on va se demander comment approcher les oiseaux en famille, parce que c'est pas toujours facile.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Alex, quel objet est vert avec quatre coins? C'est très très bien. Voici la laine.
Ce que fait ici Alex, ce n'est pas de l'imitation, c'est du raisonnement. Il sait ce que représente chacun des objets. Et il comprend qu'on veut parler d'un objet. Ensuite, il sait que cet objet a certaines caractéristiques et il comprend qu'on lui demande de quelle matière l'objet est fait. C'est un exercice qui est très compliqué et qui est impossible à résoudre sans raisonnement.
Alex, combien vois-tu de blocs verts? Très bien, il y en a 5. Maintenant, dis-nous combien sont en laine orange? Oui, 3 sont en laine orange, c'est très bien.
Good parrot. Very good.
La chercheuse Irène Pepperberg avec le célèbre perroquet Alex. On reviendra tout à l'heure sur ses performances exceptionnelles de ce perroquet gris du Gabon. Bonjour Gérard Leboucher.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez été enseignant-chercheur au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement. Et vous avez publié chez Humaine Science, Dans la tête d'un oiseau, un livre passionnant dans la collection Mondes Animaux dirigée par Jessica Serra. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour.
Vous êtes docteur en éthologie, consultante scientifique et autrice des animaux énigmatiques chez Larousse. Et avec nous également l'indispensable Yolaine Delabine. Bonjour. Quand on fait des émissions consacrées aux animaux, vous êtes là, ma chère Yolaine. Vous êtes journaliste, autrice de L'Animal Parent chez Alizio et fondatrice des rencontres des intelligences animales qui auront lieu donc en fin août.
Oui, 23, 24, 25. Où au ça? Château de la Bourbon, c'est au sud de Saint-Malo. Avec plein d'oiseaux d'ailleurs.
Alors, Gérard Leboucher, tout d'abord, pourquoi cette passion pour les oiseaux?
Alors, peut-être plus qu'une passion pour les oiseaux, c'est une passion pour le comportement. C'est-à-dire pour expliquer comment des animaux, au fond, des choses tellement compliquées, pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, pour essayer de comprendre comment ils réfléchissent, en fait, pour résoudre des problèmes. Et cette passion, elle est venue petit à petit, mais je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, je crois, on m'avait demandé si je voulais un bouquin, et j'avais dit oui, un bouquin sur les animaux. Et je pensais avoir un bouquin un peu disons un peu bébête sur les animaux, c'est ce que j'aimais à l'époque en fait. Et puis on m'offre un livre qui s'appelle Le langage secret des animaux par un auteur allemand. Et là tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étudiaient le comportement animal et notamment le comportement des oiseaux. Et je crois que c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite étant petit. Et ça ne m'a jamais lâché en fait. Après au cours de mes études j'ai essayé d'aller au plus près de ce que je pouvais trouver comme étude sur le comportement animal. Et j'ai eu la chance quand j'étais en licence, à l'époque c'était la L3 de maintenant, de trouver des cours sur le comportement animal, et je me suis jeté là-dedans, et c'est comme ça que ça ne m'a pas lâché. Et après, effectivement, j'ai commencé par travailler sur la poule, qui est un oiseau, contrairement à ce que beaucoup pensent, et après, au départ, je voulais travailler sur les goélands. Comme j'étais en Bretagne, je voulais travailler sur les goélands, on m'a dit non, les goélands, c'est compliqué, tu vas travailler sur la poule. Ah bon, d'accord. Et effectivement, on peut travailler sur la poule, et puis après, j'ai fait ma carrière au laboratoire à Nanterre et j'ai travaillé sur les comportements des oiseaux.
Intelligence sociale extraordinaire de la poule.
Intelligence sociale, intelligence émotionnelle également. La poule maternelle souffre, en fait, on peut dire les choses comme ça, quand elle voit ses poussins soumis à quelque chose d'un peu dérangeant, un petit souffle d'air, etc. Et elle souffre plus, alors on le mesure avec ses battements cardiaques, etc. Et elle souffre plus de voir ses poussins recevoir des petits puffs d'air que de elle-même d'être soumise à ce traitement. Et il y a un auteur italien qui a écrit un article qui se traduit par le poulet pensant. Le poulet pensant, c'est-à-dire que toutes les capacités cognitives et émotionnelles des poulets.
Qu'est-ce qu'un oiseau, Gérard Leboucher, pourrait vous demander à un enfant de 3 ans? Un oiseau, ça a des plumes, c'est doté d'un bec, ça vole, en règle générale, mais encore.
Alors, oui, je me suis livré à l'expérience une fois, quand un de mes fils était petit à l'école maternelle, j'essayais de dire ce qu'est un oiseau, ce qui n'est pas. Les insectes ne sont pas des oiseaux, pourtant ils volent. Donc un oiseau, effectivement, c'est un vertébré comme nous, ça a des pattes, ça a des plumes, ça a un bec, et avec ce bec, c'est pas juste un truc pour faire joli sur le nez de l'oiseau, c'est quelque chose qui lui sert d'outil. C'est une sorte de main. C'est la main qu'ils ont au milieu de la figure. Parce que, évidemment, comme ils ont des ailes, ils n'ont plus de bras, ils n'ont plus de la possibilité de manipuler. Ce qui a fait que pendant très longtemps, on a pensé que les oiseaux étaient pas très futés finalement. Parce que comme ils avaient pas de bras, ils pouvaient pas faire plein de choses que nous, les humains, étions capables de faire. Et donc, ils ont un bec à la place.
À propos de bec, c'est en observant le bec de diverses espèces de pinsons des îles Galapagos que Charles Darwin a donné naissance à sa théorie de la sélection naturelle.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est un des éléments qui a contribué à la théorie de la sélection naturelle, parce qu'il a vu les oiseaux sur les îles Galapagos, et en fait, c'était une sorte de pinson, enfin, c'est pas vraiment des pinsons, mais ça y ressemblait, et il a vu qu'ils avaient des becs différents en fonction des endroits où ils habitaient. Et il s'est aperçu que les becs étaient adaptés au type de nourriture que les oiseaux pouvaient trouver, et donc il s'est dit, peut-être qu'il y avait un modèle de départ, il le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, et Darwin est très prudent, parce qu'il a pas encore développé cette théorie de l'évolution, et puis il y a quand même tout un tas de contraintes qui sont liées à l'époque où en fait on pense au grand dessein divin, etc. Et donc aller s'opposer à ça, c'est un peu dangereux. Et donc Darwin dit, oui, tout se passe comme si à partir d'un modèle unique, on avait fait plein de modèles différents. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la radiation ou du rayonnement évolutif. C'est-à-dire qu'à partir d'une espèce ancestrale, du fait de différents milieu, eh bien les oiseaux développent différents types de becs.
Alors les oiseaux sont les descendants des dinosaures. À grands traits, comment est-on passé des dinosaures aux oiseaux ?
Alors, on est passé des dinosaures aux oiseaux de façon tout à fait progressive. En fait, premièrement, il y a eu la réduction de la taille qui, je pense, était importante pour aller vers l'homéothermie. C'est une des théories. Il y a d'autres gens qui contestent un peu cela. Mais aussi, les oiseaux les dinosaures ont commencé à aller dans des milieux qu'ils ne fréquentaient pas jusqu'à présent, le milieu arboricole. Et donc, il y avait des arbres, il y avait des insectes, il y avait des trucs. Allez imaginer un tyrannosaures, parce que les oiseaux sont de la famille du tyrannosaure. Imaginez un tyrannosaure aller faire le fou dans les arbres, c'est pas très crédible. Donc il fallait qu'ils rétrécissent. Et puis en rétrécissant, ils ont un peu agrandi par rapport au tyrannosaure, leurs membres antérieurs. Et puis ils ont commencé, alors tous les dinosaures, bien avant eux, commençaient à se doter de plumes. Alors donc, tyrannosaure rex, faut pas l'imaginer avec des grosses écailles comme un reptile visqueux, mais peut-être avec quelqu'un avec des plumes dessus. Donc les dinosaures avaient des plumes, et donc pour les oiseaux, bah ces plumes, ça leur a permis de voler, ça leur a permis de planer. Dans un premier temps, ils savaient pas faire autre chose que planer. Il a fallu petit à petit qu'ils aient un bréchet, c'est-à-dire une quille là, au niveau ventral qui permette d'avoir des gros muscles d'athlètes, et ces gros muscles d'athlètes leur ont permis de voler. Et au départ, l'Archaeopteryx, hein, qui est pas l'ancêtre des oiseaux, mais qui est un des essais des oiseaux, finalement, pour devenir oiseau, l'Archaeopteryx avait simplement plané d'arbre en arbre. Il n'était pas capable de faire des vols sur longue distance.
Alors vous dites petit à petit, ça a pris des millions d'années.
Hein. Oui, quand même, oui. Petit à petit, à l'échelle des temps géologiques.
Jessica Serra, nous sommes donc entourés de descendants des dinosaures, et nous avons tendance à oublier, quand nous habitons en ville notamment, que nous sommes entourés d'animaux sauvages.
Oui, nous avons des animaux sauvages autour de nous, mais pas que. Il y a aussi des oiseaux qui sont domestiques, donc qui ont subi la domestication. Et puis, ben, ces oiseaux-là, malheureusement, on leur attribue souvent peu d'intelligence. Hein. On l'a dit tout à l'heure, cervelle d'oiseau, tête de linotte. En fait, la langue française, elle regorge d'expressions péjoratives en ce qui concerne l'intelligence des oiseaux, et pas que, d'ailleurs. Et elles sont probablement liées à la taille du cerveau qui nous semble, comme ça, au premier abord, petite comparativement aux mammifères, mais aussi à notre propension à attribuer peu d'intelligence aux animaux qui sont éloignés de nous, d'un point de vue évolutif. En gros, plus l'animal nous ressemble, par exemple à un chimpanzé, plus on est enclin à lui concéder un certain niveau d'intelligence, alors que s'il est de taille différente ou qu'il évolue dans un environnement différent, on peut penser au milieu aquatique pour les poissons ou au milieu aérien pour les oiseaux, eh ben on est tout à coup beaucoup moins enclin à leur prêter des facultés cognitives. Et on peut souligner aussi que la taille et la configuration du cerveau des oiseaux, en fait, elle a évolué très différemment de celle des mammifères, et qu'ils n'ont pas de cortex. Ce qui a longtemps laissé supposer que finalement, les oiseaux, bon, bof, ils n'étaient pas très intelligents. Et en fait, les chercheurs ont montré qu'ils ont une structure équivalente à notre cortex, qu'on appelle le pallium. Et surtout, et ça c'est vraiment fondamental pour comprendre à quel point les oiseaux sont intelligents, c'est qu'ils possèdent une densité de neurones par unité de masse qui est plus importante que les mammifères. Donc tout se passe comme si les neurones des oiseaux avaient été compactés au cours de leur évolution.
Alors peut-on dire, Jessica Serra, que l'intelligence de certains oiseaux est comparable à celle des grands singes comme les chimpanzés ?
Oui, alors c'est vrai que les éthologues aiment pas trop comparer, faire des comparaisons interespèces, mais sur des exercices similaires, on se rend compte que parfois, certains oiseaux surpassent les compétences de certains grands singes. Donc effectivement, on peut dire qu'on peut essayer de les comparer et surtout se dire que finalement, la réputation de cervelle d'oiseau n'est vraiment pas fondée.
Et oui, nous avons longtemps qualifié de cervelle de moineau, de bête comme une oie ou de tête de linotte, des personnes considérées comme bêtes ou stupides, à tort, bien évidemment, parce que nous faisions l'équation petit cerveau égale petite intelligence. Yolaine Delabigne.
Mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre l'intelligence des oiseaux, donc heureusement maintenant il y a des gens comme Gérard qui font des travaux pour le montrer. Quand on dit c'est les rois de l'adaptation, sur le réchauffement climatique par exemple, une étude américaine vient de montrer qu'ils ont déjà commencé à évoluer, alors que nous, pas encore. Les oiseaux sont déjà plus petits, avec des ailes plus grandes, plus petits parce que ça leur demande moins d'énergie et moins de nourriture, puisqu'il y a moins de nourriture, et des ailes plus grandes pour pouvoir lutter contre des vents plus forts, des problèmes climatiques, etc. Donc déjà, c'est en une décennie, hein, deux, trois décennies. Et je prendrai un autre exemple d'une étude que je viens de lire il n'y a pas très longtemps sur la mésange à tête noire. En fait, elle cache chaque hiver des milliers de graines. Et les Américains se sont demandé comment elle fait pour retrouver toutes ces graines. En fait, elle a un schéma, des schémas neuronaux dans le cerveau, qui fait que c'est comme des codes-barres, et elle a comme un encodage pour chaque cachette. Donc elle est capable, elle a encodé en fait chacune de ces milliers de cachettes qu'elle va retrouver, et ils ont vu aussi que chaque hiver, cette partie de son cerveau augmente de 30% pour pouvoir emmagasiner toute cette information, et au printemps, son cerveau reprend sa taille normale. C'est quand même extraordinaire. Voilà un exemple quand même très compliqué compliqué à prouver, mais qui nous montre à quel point il y a une intelligence qui nous dépasse.
Intelligence de la mésange à tête noire. Petite question personnelle avant d'écouter le disque. Gérard Leboucher, vous dites que les oiseaux font partie de notre univers affectif. Vous avez un faible, je l'ai lu dans votre livre, pour le ululement et les cris nocturnes de la chouette hulotte.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que ça, pour moi, ça fait une ambiance, en fait. Ouais. Je dirais pas que la hulotte, c'est mon oiseau préféré, mais il y a une ambiance, et j'aime bien me promener, parfois même en ville. Il suffit parfois d'être dans son jardin, et puis d'entendre le ululement de la chouette hulotte. Pour moi, ça fait appel à tout un imaginaire. Hein, parce que les films pas d'horreur, hein, parce que j'aime pas trop les films d'horreur, mais les films de suspense, etc. Il y a souvent des ululements. Et ça, j'adore.
Et vous, Yolaine de la Bine?
Je reprendrai ce que dit Gérard, c'est-à-dire que ce que je trouve formidable dans les oiseaux par rapport aux animaux qui, de façon générale, mais c'est d'abord le vol. C'est quand même l'animal de la liberté. C'est pour ça que ça nous fascine. C'est-à-dire que par rapport à plein d'autres animaux, on peut courir, on peut galoper, on peut faire plein de trucs, on peut pas voler comme eux. Et puis, en effet, ces chants d'oiseaux, c'est la diversité des chants d'oiseaux, en effet, entre le hibou, la mésange et le coucou. C'est incroyable, quoi. Quand on se met vraiment à écouter, on n'écoute plus aujourd'hui la nature, mais quand on se met vraiment à écouter, il y a une espèce de fourmillement d'informations, de chants, de discussions qui est incroyable, quoi. Même quand on va voyager à l'étranger, si on part en Chine, bon, ils parlent tous chinois, quoi. Les oiseaux, bah, ils parlent tous chacun leur truc. Il y a même chez certains oiseaux, on s'est rendu compte qu'ils avaient des cris par couple. Donc, ils ont un cri spécial selon le couple, selon la famille. Les corbeaux, ils ont certains cris en fonction de leur famille. C'est fabuleux, quoi. Nous, on n'a pas un langage pour chaque famille.
Jessica Serra, votre attachement aux oiseaux, il s'exprime comment ?
Je trouve que les oiseaux enjolivent nos existences en fait de bien des manières différentes. D'abord leur beauté, moi j'adore regarder les oiseaux, je trouve que c'est des animaux qui sont souvent très beaux, pas tous, mais souvent. Leur chant,
le casoar, vous le trouvez beau?
Alors le casoar, moi je le trouve beau, j'aime beaucoup ses couleurs. Alors certes il a une petite tête, il a un casque un peu bizarre, mais je trouve que c'est un bel animal. Il y a plein d'animaux comme ça, puis leur vol effectivement qui incarne la liberté. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à avoir des animaux en cage. Mais alors, c'est très rigolo parce qu'on parlait de l'oiseau préféré. Mais mon oiseau préféré, il ne s'est pas volé. C'est le kakapo. C'est ce grand perroquet originaire de la Nouvelle-Zélande et qui est absolument craquant, vraiment très très mignon. Et donc, il court, cet oiseau-là, puisqu'il ne vole pas. Il grimpe dans les arbres à l'aide de ses pattes. Et moi, ce qui me touche chez cet oiseau, justement, c'est qu'il a la réputation d'être stupide. Quand vous tapez kakapo sur Internet, l'oiseau le plus stupide du monde, qu'est-ce qu'il est bête, etc. Comme le dodo en son temps, en fait, hein, qui a disparu, on peut lire de partout combien le dodo était bête parce qu'il n'avait pas su faire face aux menaces qui pesaient sur lui, en oubliant, en fait, qu'il s'agisse du dodo ou finalement du kakapo, ben, ce sont des animaux qui ont traversé des millions d'années avant leur rencontre assez fatidique avec les humains.
Allez, dans un instant, vous verrez que certains corbeaux sont capables de visualiser comment résoudre un problème avant de fabriquer des outils sophistiqués, ou encore que certains perroquets, comme le gris du Gabon, peuvent décrire des objets par leur couleur, leur taille ou encore leur forme. Ce sera juste après avoir écouté I Feel Just Like a Child, une chanson de Devendra Bernhardt sortie en 2005, 10h24 sur France Inter.
Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man.
Deviendra Banhart interpréter I Feel Just Like a Child.
Le pigeon, c'est quand même un animal ultra confiant. Surtout con, enfin je veux dire, le pigeon, c'est un oiseau.
Grand bien vous fasse.
Le sait-il.
Ali Rebéi.
Sinon, pourquoi marche-t-il autant? Enfin, je veux dire, ils sont là, ils marchent, après ils courent. Mais vole direct, t'es un oiseau, mec. Vole, va dans les arbres, bouffe des fruits tranquilles. Va pas dans les caniveaux, bouffer des clopes. T'es teubé ou quoi?
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux différentes formes d'intelligence des oiseaux en compagnie des éthologues Gérard Leboucher et Jessica Serra et avec la journaliste et autrice Yolaine Delabigne. Gérard Leboucher, je rappelle que vous signez dans la tête d'un oiseau. Et si nous nous mettions à la place d'un oiseau, comment verrait-il le monde? Alors, c'est un peu difficile, car nous ne sommes pas dotés des mêmes systèmes sensoriels, moteurs ou cognitifs, mais tout de même, essayons de nous mettre dans sa tête.
Alors, c'est difficile, en effet, parce qu'effectivement, on ne pourra jamais être des oiseaux. Mais alors, ils ont un certain nombre de caractéristiques que l'on connaît. Par exemple, ils ont pour beaucoup d'oiseaux qui sont des prédateurs d'insectes, par exemple, ils doivent voir les insectes qui volent. Je ne sais pas si vous essayez de suivre le vol d'une mouche, vous voyez un truc, et puis après vous voyez un autre, etc. Vous ne voyez pas vraiment la mouche, eux voient.
Les rapaces, hein, notamment.
Alors les rapaces aussi, mais même des petits oiseaux, hein, des petits oiseaux insectivores voient très rapidement. Un autre point que l'on pourrait dire, hein, les oiseaux voient les UV, et nous on ne voit pas les UV. Et ils peuvent déterminer si leur congénère est mâle ou femelle, justement à cause de taches d'UV qui nous sont complètement... on est complètement aveugle à ça, et eux voient, et donc ils peuvent déterminer si c'est un compagnon mâle ou un compagnon femelle. Et donc voilà, ce sont des choses comme ça qui font que le monde des oiseaux, en fait, il n'est pas complètement hermétique par rapport au nôtre, hein, il y a des intersections entre les deux, mais le point important, c'est qu'on est dans des mondes qui ne sont pas exactement recouvrants.
Que répondre à un enfant de 5 ans qui nous demanderait pourquoi les oiseaux parviennent à voler et pas nous? Pourquoi sont-ils dotés d'ailes? Est-ce un héritage des dinosaures volants comme les ptérodactyles?
Alors les ptérodactyles ne sont pas proprement parler des dinosaures volants.
C'est pas des dinosaures volants.
C'est des reptiles volants.
Des reptiles volants.
Ouais, voilà. Avec des ailes membraneuses, etc. Alors oui, effectivement, les oiseaux sont des descendants des dinosaures, et donc c'est en tant que dinosaures qu'ils ont commencé à développer des ailes, à avoir des membres antérieurs développés, à avoir des plumes dessus, etc. Et pourquoi ils volent? D'abord parce qu'ils sont allégés complètement. C'est-à-dire qu'ils ont des os creux, ils ont des sacs aériens qui sont important pour la respiration, mais qui en même temps leur redonne de la légèreté. Et donc, en fait, les oiseaux, c'est ça qu'il faut penser à ça. Ils ont d'abord tout sacrifié, si je puis dire, pour le vol. À part, évidemment, les autruches et les fameux casoars et d'autres. Ils ont tout sacrifié pour le vol. Et donc, ils ont dû s'adapter par rapport à cette contrainte principale. Et le seul truc sur lequel je pense ils n'ont pas sacrifié beaucoup, c'est le cerveau. Ils ont gardé un cerveau alors qui est plus petit, mais qui proportionnellement à leur taille vaut bien notre cerveau. Et comme on le disait tout à l'heure, comme Jessica le disait tout à l'heure, ils ont des neurones très concentrés. Ils ont des neurones plus courts et donc ils en mettent plus au centimètre carré. Et il y a un neurobiologiste psychologue qui a donner une bonne image. Hein. C'est nous, on serait pourvus d'un ordinateur normal et les oiseaux, c'est des smartphones à côté. C'est-à-dire qu'ils ont mis plein de microprocesseurs dans peu de place. Et voilà.
C'est une idée reçue de penser que les ptérodactyles sont les cousins des oiseaux?
Moi, j'ai découvert en relisant, hein, donc en regardant les choses. Moi aussi, je pensais que c'était des dinosaures, et non.
Voilà. Et voilà. Bah voilà. Yolaine de la Dunière.
Je voudrais juste rajouter ce que j'ai trouvé fascinant dans le livre de Gérard Le Boucher, c'est que en fait, en partant comme ça, en se transformant en oiseaux progressivement, ils ont conquis le monde du plus froid avec des manchots jusqu'au plus chaud, et ils ont du coup développer des caractéristiques, des adaptations complètement extraordinaires, quoi. Et je trouve que ce sont des animaux qui sont des animaux de record. Les martinets qui volent 6 mois sans se poser, ou la sterne arctique qui fait 35 000 kilomètres pour migrer. Voilà, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces tout petits oiseaux avec leur petit cerveau, chapeau, en fait. Ils ont conquis le monde et finalement, c'est un peu eux qui sont à l'origine de la richesse de notre monde aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu d'oiseaux, le monde serait sans doute moins riche. J'exagère peut-être, non ?
Non, je pense qu'effectivement, de toute façon, nous, on a les mammifères, nous avons 5000 espèces. Les oiseaux ont 10 000 espèces, donc effectivement, ils ont été capables de plus de diversification que nous-mêmes.
Alors, vous avez peut-être reconnu le chardonneret élégant. Beaucoup de questions sur le chant des oiseaux. Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Quelles sont les grandes fonctions du chant? Gérard Le Boucher, plaire, repousser des intrus, mais encore.
Alors, le chant, déjà, en fait, il y a un problème avec le mot, parce que les oiseaux ne chantent pas, en fait. Mais pour nous, ça, c'est du chant, parce que c'est mélodieux, c'est harmonieux. Mais les oiseaux parlent. Les oiseaux parlent, et effectivement, le chant d'un oiseau, c'est des oiseaux, des oscines, ce qu'on appelle les oscines, les oiseaux chanteurs, qui représentent à peu près quand même la moitié des oiseaux. C'est un moyen de dire qu'ils sont là, sur un territoire, pour les mâles, par exemple, au moment de la reproduction. Alors, ça, quand je dis pour les mâles, c'est pour les oiseaux qui vivent sous nos régions. Si on était dans les tropiques, en fait, mâles et femelles chantent, chantent et forment même des duos. Et donc, grâce à ces duos, ils gardent leur territoire, parce qu'ils vont le garder toute l'année. Il n'y a pas la même saisonnalité que chez nous. Ils vont le garder toute l'année et donc ils vont essayer de repousser les concurrents. Et donc, le fait que le mâle et la femelle chantent ensemble, ça a quelque chose à voir avec le lien qui s'établit entre eux. Et sous nos latitudes, donc, c'est le mâle qui chante à l'exception des rouges-gorges, par exemple, où les femelles chantent l'hiver. Le mâle qui chante donc va dire « c'est mon territoire, ne viens pas là, je m'appelle machin, tu viens pas là, sinon ça va mal se passer ». Et donc, en général, ça suffit pour éviter les confrontations armées réelles entre les oiseaux. Et ça permet également d'attirer des femelles. Et ce que l'on avait vu, ce que d'autres chercheurs ont vu et qu'on a vérifié aussi dans des conditions de laboratoire, c'est que les femelles, par exemple, écoutent beaucoup ce que se racontent les mâles, et en fonction de celui qui a le dernier mot ou pas, elles font des choix. Elles peuvent se dire finalement, mon compagnon, il n'est pas si bien que ça, donc on va aller voir peut-être ailleurs, au moins temporairement.
Voilà. Preuve de l'intelligence des oiseaux, leur capacité d'apprentissage du chant. Quel est le processus d'apprentissage dans la plupart des espèces? Prenons l'exemple des passereaux mâles en Europe.
Alors oui, effectivement, donc les oscines, les oiseaux chanteurs, ils doivent apprendre leur chant. C'est comme les bébés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innéité du chant. Alors les bébés oiseaux sont capables de produire des sons, alors cette fois de façon innée, mais ils sont pas capables de les arranger dans une composition, je veux dire, qui soit un chant structuré. Donc ils doivent l'apprendre d'un tuteur qui, dans les circonstances normales, sans doute, est le père, mais chez les espèces un peu plus grégaires, ça peut être un autre mâle, qui apprennent, où ils peuvent faire un mix de ce qu'ils entendent. Et donc, ils vont apprendre petit à petit. Donc, ça se passe durant les premières semaines de vie de l'oiseau. D'abord, ils commencent à écouter, à emmagasiner les schémas moteurs, enfin, les schémas auditifs. Et puis après, ils vont essayer de les reproduire. C'est comme en fait, l'apprentissage du chant, c'est comme l'apprentissage de la bicyclette chez nous. C'est-à-dire que on se contente pas de regarder quelqu'un qui fait du vélo. À un moment donné, il faut y aller. Et donc, ils font ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se lancent. Donc il y a un apprentissage moteur qui se fait, et puis petit à petit, il y a ce qu'on appelle une cristallisation du chant. Alors cristallisation, c'est-à-dire que ça se fige un petit peu, c'est-à-dire que le chant ressemble à un chant d'adulte. Et mais s'il n'y a pas eu de modèle adulte pendant ce temps-là, ils chantent à peu près n'importe quoi. Enfin, ils chantent pas, ils émettent des sons qui ne sont pas des chants. Alors s'ils émettent des sons qui ne sont pas des chants, ils seront pas pris au sérieux par les autres, ils pourront pas séduire une compagne, ils ne pourront même pas garder un territoire parce que personne ne les prendra au sérieux. Donc effectivement, c'est important pour eux, mais c'est quelque chose qui se passe. Alors à un moment, ils ont beaucoup de neurogénèse, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de neurones qui poussent et qui sont en train de se connecter. Et petit à petit, ils construisent des chants. Alors il y a deux possibilités pour les oiseaux. Il y a des oiseaux qui apprennent pendant la première année un chant typique de l'espèce et après vont plus en bouger. Éventuellement, ils vont améliorer le chant, ils vont le rendre un peu encore plus fidèle, plus ressemblant au modèle. Et puis il y a d'autres oiseaux comme le canari par exemple qui sont capables de rajouter des éléments de chant tous les ans. Et ça, c'est lié aussi au fait que pendant l'hiver, ils ont des neurones plus petits et pendant l'été, ils ont des neurones qui poussent.
Est-ce que les différentes espèces d'oiseaux peuvent communiquer entre elles? Est-ce que, par exemple, un canari mâle peut communiquer avec une mésange mâle? Est-ce que c'est possible?
Alors, ça ne sera pas par l'intermédiaire des chants, mais ça sera par l'intermédiaire des cris.
Ah, d'accord.
Les cris, souvent les oiseaux dans la nature, canari, mésange, je ne sais pas, mais mésange moineau, oui, par exemple. Et quand il y a si vous mettez des aliments sur votre balcon, vous allez voir des mésanges, vous allez voir des moineaux, etc. Et puis il y a peut-être des certains qui vont un peu monopoliser la mangeoire. Et donc il se passe la chose suivante. Alors déjà il y a des cris d'alarme, qui sont modulés en fonction du danger. Les mésanges, par exemple, qui ont été étudiés, les mésanges aux États-Unis font des chicadis, on les appelle des chicadis, font des zizi à la fin de leur cri d'alarme, et puis il y a de zizi, plus c'est dangereux. Donc, c'est une façon de dire les choses. Et puis, ils s'en servent également, parfois, comme, on parle d'intelligence machiavélique pour tromper les congénères et même les animaux d'autres espèces, c'est-à-dire pour leur faire croire qu'il y a du danger. Comme ça, on peut aller manger quand les autres se sont enfuis.
Yolaine de Labigne.
Les oiseaux communiquent aussi autrement que par le chant, c'est par des gestes. L'Université de Tokyo, elle a publié une étude là récemment sur, une fois de plus, les mésanges. Elle montre que les mésanges peuvent, avec leur aile, montrer un fruit ou quelque chose, vous voyez, vraiment, mais comme nous quand on montre du doigt, et ils ont montré quelque chose que je trouve génial, c'est qu'au sein du couple, ils ont un geste qui équivaut pour nous à je t'en prie, passe d'abord. Quand le couple veut rentrer dans le nid, ils se sont rendus compte que souvent c'est vas-y, toi d'abord, etc. Donc un geste en fait de politesse. Donc je pense qu'on va découvrir dans les années à venir des multitudes de façons de communiquer des oiseaux dans leur chant et dans leur gestuelle, etc.
Vous avez mimé les gestes, c'est un
oui.
très joli geste.
Vous avez vu mon aile.
On peut pas le voir, hélas, à la radio. Jessica Serra.
Oui, bien, je pense aussi qu'au-delà de se parler entre eux, quand on entend les chants des oiseaux qui sont très mélodieux, il y a aussi une véritable sensibilité esthétique chez les oiseaux. Je pense à cette vidéo très rigolote sur le web du cacatoès snowball, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais extraordinaire. Et quand les chercheurs ont commencé à s'intéresser au cas de snowball, eh bien, les bras leur en sont tombés. En fait, l'oiseau est capable de danser en suivant le rythme d'une musique, que ce soit Cyndi Lauper ou celle des Backstreet Boys. Et donc, il va déployer sa grande de huppe à chaque mélodie et surtout faire plusieurs pas de danse qui a été sérieusement étudié par une équipe américaine qui a soumis l'animal à différents types de musique en faisant varier le tempo et qui ont montré que Snowball est capable d'adapter sa danse en ralentissant ou en accélérant ses pas de danse en fonction du rythme de la musique qu'il écoute. Et on a pas moins de 14 pas de danse qui ont été répertoriés et c'est assez extraordinaire à regarder. On a une propulsion de la tête d'un côté à l'autre, un balancement du corps, un levage de pattes seul ou en synchronie avec la tête, et puis le fameux headbang absolument hilarant qui rappelle les violents mouvements de tête des rockers d'AC/DC. Enfin, c'est juste extra. Et donc, tout ça pour souligner que je pense qu'il y a quand même aussi cette sensibilité esthétique au-delà de la communication à proprement parler, où finalement on est plus ou moins sensible à la beauté du chant.
Vous savez que Mozart était copain avec un passereau qui, pendant quelques temps, est venu et ils jouaient ensemble, et Mozart disait qu'il s'était inspiré du chant du passereau.
Question d'Agnès sur les chants des oiseaux. Est-ce qu'ils ont des accents régionaux? Est-ce que, je sais pas moi, un canari de Chine a un accent par rapport à un canari français?
Alors, des accents régionaux, oui. Alors, peut-être pas chez le canari, mais ça a été montré chez des oiseaux qui vivaient dans la nature. Effectivement, on peut reconnaître l'origine de l'oiseau en fonction d'un élément du chant. Alors, c'est pas tout leur chant, mais c'est un peu comme un accent régional. Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'intelligence machiavélique, hein, déployée par certains oiseaux. L'intelligence machiavélique, la ruse, ça fait partie de l'intelligence sociale. Les corbeaux, par exemple, mais bien d'autres oiseaux également, peuvent feindre de cacher leur nourriture à l'endroit pour berner les voleurs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un grand jeu chez les corbeaux d'aller piquer les réserves des autres. Quand on voit un congénère qui est en train de ramasser des trucs, on se dit tiens, bah peut-être qu'on pourrait y aller. Et par contre, les oiseaux, les corbeaux sont sensibles effectivement à la présence des congénères. Et s'ils voient qu'il y a des congénères en train de les regarder, ils vont mettre leur nourriture à un endroit, ils vont attendre que le congénère s'en aille, et puis ils vont déplacer la nourriture. Les geais sont très bons aussi. Les geais sont des corvidés, mais ils sont très bons aussi pour ce genre de travail.
Les corvidés sont même capables de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il pense, interpréter ses gestes et ses regards. C'est Dolly, un chouka, qui va nous le prouver. Auguste a dissimulé un asticot sous un des deux gobelets.
Auguste va lui indiquer le gobelet simplement avec le regard. Et on va voir si donc ce chouka est capable de lire dans le regard d'Auguste.
Les corvidés sont très très sensibles à cette direction du regard. Chez l'être humain, on est capable de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer ce que l'autre voit. Et ici, si l'oiseau est capable de suivre le regard d'Auguste, ça veut dire qu'il, quelque part, il se projette dans son regard en disant « Mais pourquoi elle regarde dans cette direction ? Peut-être qu'il y a à manger, donc je vais y aller. Ou peut-être qu'elle veut que je m'approche de cet endroit, donc je vais y aller. Voilà. » Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il en comprend, mais il en comprend quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Il y en a chez l'être humain, on est très très doué pour ça. Et chez quelques autres espèces, comme les grands singes et les corvidés.
Extrait du Monde de Jamie sur France Télévisions en 2017. Alors, Gérard Le Boucher, on peut le dire, hein, les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents au monde. Prenons l'exemple d'un corvidé, hein, le corbeau calédonien, capable de fabriquer des outils sophistiqués et de visualiser un problème avant de trouver la solution pratique. Vous comparez d'ailleurs le corbeau calédonien à MacGyver, ce célèbre héros des années 1980 qui était doté d'un génie pratique hors du commun. Racontez-nous cette capacité des corbeaux calédoniens à façonner des outils sophistiqués. Donnez-nous des exemples.
Alors, cette découverte, elle n'est pas tout à fait récente, mais il a fallu quand même des siècles et des siècles avant de trouver. C'est-à-dire que les corbeaux calédoniens sont capables déjà de prendre... Alors, on va commencer par le plus simple. Ils prennent des baguettes sur lesquelles il y a un petit embranchement, ce qui fait comme un hameçon. Et grâce à cet hameçon, ils vont aller, avec leur bec, pêcher des larves, enfin les choses qu'ils aiment bien, pêcher des larves dans des anfractuosités et s'en régaler. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'ils sont capables, à partir d'une plante, on dirait un peu un palmier quand on les voit, mais ce sont pas des arbres, ce qu'on appelle des pandanus. Et les pandanus sont des feuilles avec des petites épines, et ils vont découper un petit peu ces feuilles et s'en servir comme des peignes. Et donc, ils vont mettre les peignes dans les trous et ils vont récupérer leur pitance. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement, alors, les jeunes sans expérience, etc., ils sont intéressés par les feuilles, effectivement. Il semble qu'il y ait un comportement inné de bricoler un petit peu les feuilles, sauf que ils font des trucs qui ne ressemblent à rien. Voilà. Et donc, ils ont besoin d'un apprentissage guidé par les parents. Alors, les parents les gardent pendant un an, voire deux ans même. C'est très extrêmement long pour un oiseau, et pendant ce temps-là, ils apprennent à fabriquer des peignes, et ces peignes, il y a de trois sortes. Il y a donc le truc le plus simple, c'est le peigne un peu large. Ça ne demande pas trop de minutie. Et puis, vous avez un deuxième niveau, c'est le peigne plus fin qu'on va pouvoir mettre dans les trous plus petits, etc. Et puis, vous avez le troisième niveau qui est intéressant parce que les peignes fins, ils sont pratiques mais ils sont fragiles. Et les peignes que vont inventer certains corbeaux calédoniens, c'est des peignes à cran. C'est-à-dire que ça commence large et puis il y a un premier palier comme un escalier et puis encore un deuxième escalier, et puis un troisième. C'est-à-dire que c'est à la fois solide, parce que la base est solide, et puis ça peut être à la fois fin. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'en trouve pas partout sur la grande île, qui est l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. C'est un un petit peu régional. Et donc, ça fait penser à l'idée d'une culture locale. Il n'y a pas encore de preuve absolue, mais ça y ressemble fortement.
Dans une fable, Ésope raconte qu'un corbeau est capable d'utiliser des cailloux pour monter le niveau de liquide dans un récipient pour se désaltérer. C'est une fable. Et les chercheurs ont pris Ésope au mot. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est assez extraordinaire.
Ça, ils ont découvert, ils ont d'abord commencé par des corbeaux freux qui ne sont pas réputés pour utiliser des outils. Et ils ont mis des cailloux à leur disposition. Et puis, ils avaient un tube à l'intérieur duquel il y avait une petite larve, donc appétissante, qui était sur un petit volume d'eau. Et donc, le corbeau, il met son bec à l'intérieur, il ne peut pas l'attraper. Et donc, les corbeaux, très rapidement, prennent des cailloux, les mettent dedans, regardent ce qui se passe. Alors, ils avaient l'habitude de manipuler des cailloux, et donc, et ils l'ont fait, mais très vite, ils comprennent que quand je mets un caillou à l'intérieur du tube, ça fait monter le niveau. Donc, ils en mettent un deuxième, donc ils en mettent un troisième, jusqu'à temps que la larve soit à hauteur du bec. Et les corbeaux calédoniens font exactement la même chose.
Dans un instant, vous verrez les incroyables capacités langagières d'Alex, un célèbre perroquet, un gris du Gabon. En attendant, on retrouve Ma vie de parent de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors, mon cher Julien, que vous inspire cette petite plongée dans la tête des oiseaux?
Bien, j'ai beaucoup aimé écouter Gérard Le Boucher, car en tant que parents, nous sommes nous-mêmes très proches des oiseaux. Je veux dire, s'occuper d'un petit être qui piaille d'impatience pour qu'on lui donne la béquée et qui finit à la fin par prendre tellement de place qu'on a envie de le chasser du nid, je vois ce que ça veut dire. Blague à part, j'aimais vous écouter car en bon gamin des villes, je n'ai moi-même jamais été très éveillé aux beautés du monde ornithologique. Je voyais bien la différence entre un pigeon et une cigogne, mais j'aurais bien été incapable de faire la différence cette fois entre une buse et un faucon, entre un moineau et une mésange, entre une corneille et un corbeau. Et je ne parle même pas de leur chant. Autant je connaissais toutes les nuances de tâches entre les panthères, les guépards et les cougars que j'avais jamais vues de ma vie, autant j'ignorais tout des bêtes à plumes qui m'entouraient, que je classais grosso modo en 3 catégories, petit, moyen et un peu gros. Faut pas exagérer non plus.
C'est un manque pour un enfant de ne pas mieux connaître les oiseaux?
Eh bien, pour parodier Jean Kielevitch, je vais vous répondre, on peut vivre sans rien connaître des oiseaux, mais pas si bien. C'est pas nos invités qui vont me détromper. Alors nous sommes peut-être plus autant des enfances aux oiseaux, ces rites de passage qui impliquaient pour les jeunes garçons d'aller quêter les nids et observer les oiseaux sur le long chemin pour devenir des hommes. Mais il y a d'autres leçons sans doute à en tirer pour nos gamins du 21e siècle. Le plaisir devant le spectacle de leur envol, le jeu musical derrière leurs chants multiples, le simple vagabondage dans la nature à la découverte de ses habitants, sans oublier la sensibilisation sur leur fragilité, leur statut en réalité de canaris dans cette grande mine de charbon qu'est notre monde moderne.
Alors comment les approcher en famille ?
Eh bien, bonne question, parce que la difficulté pour observer les oiseaux avec des enfants, c'est quand même qu'ils ne se laissent pas si facilement approcher. Bizarrement, ils n'aiment pas trop les gazouillis de nos propres volatiles, pourtant si délicats quand ils s'écrient à tue-tête « Papa, il est où le rouge-gorge ?» Observer les oiseaux, je ne vous l'apprendrai pas, Gérard Le Boucher, c'est une école du silence et de la patience pour les enfants comme pour les adultes. Alors, 3 conseils quand même pour tenter d'observer les oiseaux en famille. Tout d'abord, les laisser s'approcher eux-mêmes. Si vous disposez d'un jardin, même d'un balcon ou d'un rebord de fenêtre, vous pouvez y suspendre une mangeoire en face d'une grande fenêtre pour pouvoir les regarder à loisir sans craindre de les effrayer. Mieux, essayez de les reconnaître en vous renseignant sur les oiseaux de votre région ou en les prenant discrètement en photo. Vous finirez par distinguer pinsons, grives et chardonnerets. Ce sera même un jeu de les reconnaître avec vos enfants dans votre petit zoo privé à l'heure du petit déjeuner. La seconde approche, ce serait peut-être plutôt la classique balade en forêt. Cette fois, c'est sans doute moins le sens de la vue qui vous sera utile que celui de l'ouïe. Et là, même si vous n'êtes pas un ornithologue chevronné, c'est la technologie qui pourra vous aider puisqu'il existe désormais de nombreuses applications comme Birdnet, capable de reconnaître le chant des oiseaux autour de vous. Bon, ça signifie qu'il faut se balader dans une forêt où il y a du réseau, mais c'est pas si rare aujourd'hui. Et à la maison, d'autres applications font aussi office de quiz comme Bird Melody qui permet d'associer chant et photo pour devenir un expert de façon ludique. Et enfin, 3e conseil, abonnez vos enfants à La Hulotte, leur journal historique des passionnés de nature en France qui allie savoir et humour. Il était fondé il y a plus de 50 ans par un jeune instituteur, Pierre Déhomme. Il est toujours à sa tête aujourd'hui et je nous souhaite pareille longévité grâce aux oiseaux.
Abonnez-vous donc à La Hulotte, que je ne connaissais pas, mon cher Julien. Abonnez-vous également au Un Hebdo, dont vous êtes le rédacteur en chef. Gérard Leboucher, vous n'avez pas arrêté d'acquiescer à ce que disait Julien Bisson.
Alors, déjà, je soutiens la Hulotte parfaitement. Je suis abonné depuis... depuis que je suis jeune, donc ça commence à faire un moment. Et donc, effectivement, c'est un journal extraordinaire. Et un journal très sérieux, en fait. Hein, très sérieux, en étant complètement humoristique. Je l'ai cité pas mal dans le livre. Et effectivement, l'autre point, effectivement, c'est de regarder les oiseaux de sa fenêtre. Et moi, je suis un peu paresseux, en fait. J'avais des amis qui étaient de très bons ornithologues. Moi, je ne crois pas l'être aussi bien que ça. Et j'aime bien que les oiseaux viennent à moi. C'est plus facile de les regarder.
Tous les épisodes de Ma vie de parent de Julien Bisson sont à réécouter dans l'appli Radio France. Dans un instant, on ferait donc la connaissance d'un incroyable perroquet, Alex Ingri du Gabon. On écoute Gaëtan Roussel et Marguerite Thiam, Le sais-tu ? Et Marguerite Thiam interprété Le sais-tu.
Vous savez, le pigeon est beaucoup plus difficile qu'on ne pense.
Grand bien vous fasse.
On croit l'avoir eu et hop, il revient vous faire caca sur la tête.
À lire ébahi.
Mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant.
Sur France Inter.
On s'intéresse ce matin aux différentes formes d'intelligence des pigeons et on vient d'entendre un petit extrait avec Louis de Funès qui évoque un pigeon. Et vous vouliez défendre le pigeon, Yolaine Delabine, je rappelle que vous êtes journaliste et autrice.
Mais oui, le pigeon, il nous a aidés, il a porté des messages, il a sauvé des soldats. Enfin, il a été très ami avec l'humain jusqu'à ce qu'un imbécile, franchement, de médecin américain lance que c'est un rat volant, qu'il est sale, qu'il porte des maladies sans aucune étude scientifique, puisque ça n'a jamais été prouvé. Et à partir de là, c'est parti... à tire-d'aile dans le monde entier, on s'est mis à détester les pigeons qui sont exceptionnels. Sens de l'orientation, on n'a toujours pas compris comment ils font. Ils sont capables de reconnaître un Picasso d'un Monet, un Bach d'un Stravinsky. On a même fait une dernière étude au niveau de l'intelligence. On les compare à l'IA. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle la force brute. À l'intelligence artificielle. Ils ont la force brute. Nous, quand on a un problème à résoudre, on prend une solution. Puis à un moment, on va laisser tomber parce que c'est trop compliqué, etc. On perd du temps. Eux, comme l'intelligence l'intelligence artificielle, ils vont faire essai-erreur à toute allure parce qu'ils ont énormément de neurones et ils vont aller plus vite que nous. Et dernière chose, ils sont plus capables de faire deux choses en même temps que les humains. Donc en fait, ils sont presque plus intelligents dans certains domaines que nous. J'aurais encore plein de choses à dire sur les pigeons.
On fera une émission sur les pigeons. Si
ah oui. Oh
alors
oui.
Gérard Leboucher, j'aimerais qu'on s'arrête en cette fin d'émission sur les compétences langagières d'un célèbre perroquet, Alex, né au Royaume-Uni en 1976 et mort aux États-Unis en 2007. C'est un perroquet gris du Gabon, réputé pour son habileté langagière. Alors, les perroquets répètent-ils ce qu'ils entendent sans comprendre le sens de ce qu'ils disent, ou pas du tout? C'est l'objet de plusieurs expérimentations pendant plusieurs décennies autour d'Alex. Que disent les recherches, Gérard Leboucher?
En fait, Irène Pepperberg voulait justement faire ces expériences pour démontrer que les perroquets ne parlaient pas comme des perroquets. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de dire des choses sensées. Mais pour cela, il fallait trouver une méthode d'éducation qui leur permette de, ben voilà, de développer cette capacité. À ce que jusqu'à présent, c'était du genre, tu dis le bon mot, je te récompense, et en fait, les perroquets disaient des mots pour histoire d'avoir la récompense et ne comprenaient pas forcément ce qu'ils racontaient. Et là, elle a trouvé une méthode, alors c'est pas elle-même, c'est d'autres chercheurs qui avaient, elle a adapté une méthode qui existait, c'est la méthode du rival et en fait, l'idée, c'est que ça consiste à deux personnes font semblant, enfin miment une interaction entre un professeur et puis un élève en disant voilà, ça c'est de quelle couleur, et l'élève répond c'est bleu, c'est vert, c'est rouge, et s'il se trompe, évidemment il se trompe exprès, là il est puni, c'est-à-dire qu'on lui dit bah non, t'auras pas l'objet. Et le perroquet à côté, Alex, regardait et comprenait qu'il y avait des associations à faire et qu'il comprenait que effectivement quand on donnait la bonne réponse on avait le droit de jouer avec l'objet, ou si c'était pas très intéressant on pouvait l'échanger contre des récompenses. Et donc elle va travailler avec Alex, alors c'est quelque chose, moi j'ai une admiration sans borne pour son travail. Elle va travailler pendant 30 ans avec un perroquet, enfin avec d'autres aussi, mais elle va s'investir complètement
sur Irène
Pepperberg va s'investir sur ce perroquet avec tout le drame que c'est quand le perroquet meurt avant la fin normale de vie d'un perroquet.
Il est mort à l'âge de 31 ans, alors qu'un perroquet peut vivre une quarantaine d'années.
Oui, c'est ça.
Et donc Alex a pu décrire des objets par leur couleur, par leur taille, leur forme, et puis il a su utiliser des concepts, oui. Comme par exemple « même différent », »,« présent », »,« absent voilà. ». C'est extraordinaire.
Elle avait réussi effectivement à montrer chez le perroquet ce que d'autres avaient montré chez les grands singes, chez les chimpanzés, à part le langage des signes par exemple, ou avec des petits maniaques qui représentaient des mots. Et là, évidemment, l'avantage du perroquet, c'est avec sa langue souple, etc., il est capable de parler comme nous. Et donc la réponse était beaucoup plus immédiate. Et donc elle a fait sur le perroquet ce que les primatologues avaient fait sur le chimpanzé.
En un mot de conclusion, pas forcément très optimiste, mais que serait un monde sans oiseaux, Yolaine Delabigne?
Ça s'appelle le printemps silencieux. Et donc ça serait terrible, mais je pense que les oiseaux sont justement tellement intelligents pour s'adapter que ça n'existera pas.
Jessica Serra, en quelques mots?
Moi, je voulais juste souligner Alex qui avait fait preuve d'une intense créativité aussi dans sa manière de communiquer. Et je pense qu'on n'est qu'aux prémices des découvertes sur les oiseaux et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre.
Merci à toutes et à tous. Merci Jessica Serra. Merci Yolaine Delabigne. Et merci Gérard Leboucher. Je recommande vraiment Dans la tête d'un oiseau. C'est publié chez Humaine Science avec un magnifique flamant rose en couverture. Et vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli Radio France. Demain, on s'intéresse au à l'occasion de la sortie du livre de Sonia Fairchild.